RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Sandrine Pégan, avocate, Abel Bouillet, éducateur, Bérénice Levé, philosophe et conférencière. C'est la deuxième heure des GG qui démarre maintenant. Au cours de cette deuxième heure, on va aborder différents sujets avec vous, bien sûr, au 32-16. L'affaire du périscolaire parisien, il y a un deuxième suspect qui a été relaxé au bénéfice du doute. On a la fin de vie aussi. La fin de vie, vous savez que le dispositif législatif a été adopté à l'Assemblée nationale. Il y a eu un cocktail au ministère chargé de présenter le dossier pour célébrer l'adoption de la loi. Alors, est-ce que certains étaient gênés en disant « Écoutez, c'est une loi sur la fin de vie, c'est grave et on fait un cocktail pour le saluer. Il y a un problème. » Et puis, dans un instant, on va aborder le sondage pour Marine Le Pen. Quatrième candidature présidentielle. Elle n'a jamais été aussi haut dans les intentions de vote. Elle monte aussi au second tour pour on la donne victorieuse. Est-ce que cette quatrième fois c'est la bonne? Vous venez en parler avec nous au 32-16. Juste avant, je vous rappelle que vous avez les vacances Bellambra à gagner. Vacances Bellambra, mer, montagne, campagne. Vous envoyez vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS au 732-16. C'est à vous de jouer, c'est à vous de gagner. C'est un séjour tout compris premium. Vous êtes pris en main, vous êtes chouchouté, vous êtes choyé. Il y a juste une chose à faire, se reposer. Vacances par SMS au 732-16. Tirage au sort tout à l'heure à 11h20. Allez, on parle politique. Chanson de Philippe Catherine sur Marine Le Pen. Alors la présidentielle, quand on regarde les sondages qui sont sortis là juste après la décision de justice, ils montrent une progression de Marine Le Pen dans les intentions de vote, et c'est sa quatrième candidature.
Marine Le Pen semble avoir réussi son pari, si l'on en croit en tout cas ce premier sondage IFOP qui a été publié dans le Figaro hier, et donc réalisé après son annonce de candidature. Eh bien, ce sondage indique que la chef de file du RN arriverait largement en tête au premier et second tour dans toutes les hypothèses testées, autour de 35-36% au premier tour, ce qui est un score que n'a jamais fait le RN à une présidentielle. Elle a donc même rattrapé son retard sur Bardella, parce que dans les derniers sondages, on voyait que Bardella avait une petite avance sur elle. Visiblement, l'avance est rattrapée, et au second tour, elle gagne. Alors, il faut bien sûr être très prudent, second tour, on est à quand même plusieurs mois de la présidentielle, mais enfin, en tout cas, à l'instant T, au second tour, elle gagnerait face à Édouard Philippe, 56-44, donc quand même assez largement. Elle écraserait Jean-Luc Mélenchon, 70-30. Donc, est-ce que la quatrième candidature est pour Marine Le Pen la bonne ?
32-16 pour en parler avec les GG, Bérénice.
Je ne suis quand même pas optimiste, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de chances que toutes les forces adverses se coalisent contre son arrivée au pouvoir. Et là, je pense que, alors évidemment, la configuration face à Mélenchon est tout à fait impressionnante, parce que dans ces cas-là, LFI votera malgré tout pour Mélenchon. Donc, mais je ne pense pas que ce soit pour autant la bonne qui soit acquise.
Elle a une dynamique là quand même.
Il y a une véritable dynamique, je pense que oui, et je crois que là, le fait qu'elle ait pris tout le monde de court avec le choix et le parti qu'elle a pris montre un certain panache, une véritable volonté d'y aller, donc qui peut aussi, qui redonne, je pense, beaucoup d'énergie à certains dans l'espoir que la politique puisse quelque chose, mais je pense malgré tout qu'il y a il y aura une telle campagne médiatique contre Marine Le Pen que je ne pense pas que ce soit pour autant acquis, hein.
Moi, je suis d'accord, et je pense qu'en plus, ces sondages ne prennent pas le front républicain dont on pensait qu'il était mort, et on a vu, lors de la dernière dissolution, On a tous été surpris. Ouais. Et même sans le Front Républicain, combien même elle fait 35%, je pense pas qu'elle ait 15% de report de voix en stock. Donc là, il y a un regain. Pourquoi? Le Rassemblement National est en train de s'aseptiser, de se macroniser. Il y avait un petit peu, hein, en même temps, il y avait des gens qui disaient, bon, Marine Le Pen et Bardella sur le plan économique, ils sont pas tout à fait raccord. Mais là, le fait qu'elle ait utilisé cette sorte de magouille, ce qui est une bassesse politique, c'est-à-dire passer par le pourvoi en cassation pour reprendre, ben oui, pour, ça c'est des choses que l'on voyait avant, le pourvoi en cassation pour récupérer le statut de présumée innocente alors qu'elle a déjà été condamnée deux fois, alors que pour l'affaire Jean-Marc Morandini, même si c'est pas du tout la même chose, quand Morandini faisait la même chose, c'est-à-dire qu'il avait fait appel et qu'il s'est pourvu en cassation, elle a eu des mots très durs contre lui. Moi, je parle sur le principe et pas sur le fond du dossier. Elle fait exactement la même chose. Donc oui, pour les électeurs, ça lui redonne une image de candidate anti-système, parce que c'est sur ça que le Rassemblement National
a roubé. Ben, si, c'est le candidat. Pas anti-système, c'est que la justice n'a pas à décider à la place du
c'est
peuple.
C'est le parti anti-système. Qui était en train de s'embourgeoiser, de se boboiser en plus avec Jordan Bardella. Donc là, ils reprennent ce statut. Ils pourront redire on n'a jamais été au pouvoir, mais je crois malgré tout que elle fait 35%, elle n'aura pas les 15% de report et que le Front Républicain sera plus fort que jamais.
Après, bien sûr qu'il faut se méfier des sondages. Et d'ailleurs, je ne les supporte plus. Moi, je me méfie des sondages comme de la peste. Il y a déjà eu des précédents avec Juppé, etc. Là, c'est sûr que pour elle, c'est un peu un espèce de pari gagnant parce que avec cette décision de justice, elle est devenue comme une espèce de femme courageuse. Donc, son image s'est améliorée.
Elle est panache.
Elle capitalise sur le ras-le-bol, sur l'insécurité, sur les salaires bas et tout. Donc, c'est son image qui s'est améliorée. Mais moi, je pense sincèrement qu'à un moment donné, les Français vont se réveiller et que toute personne politique qui se présente à une élection présidentielle doit être digne d'une certaine exemplarité.
Exactement.
Et là, à partir du moment où, pardon, parce que tu parlais du pourvoi en cassation et qu'ils usent un peu des droits de la défense, mais ça fait partie des droits de la défense.
J'ai pas dit le contraire, mais
elle est critiquée par rapport au Morandini, mais elle a quand même le droit de pouvoir utiliser cette voie de recours.
J'ai pas dit le contraire.
En revanche, attention, parce que si, et d'ailleurs le président de la Cour de cassation s'est positionné sur le fait que la décision serait rendue normalement en janvier 2027. Et si le pourvoi est rejeté, la décision de la Cour d'appel deviendra définitive. Donc là, elle sera plus présumée innocente.
Oui, mais alors ça.
Donc, ce matin, ils ont annoncé que ce serait sans doute en avril. Hein, que
hier, c'était en janvier. Maintenant,
oui, mais là, ce matin, ils ont dit en avril. Donc en fait, on sera à 10 jours.
Oui, mais ça sera toujours la même.
Bien sûr, mais il n'y aura plus que 10 jours.
Alors là, du coup, c'est curieux.
Exactement. C'est à la veille.
Habituellement, la Cour de cassation met beaucoup plus de temps. Là, ils accélèrent parce que c'est la présidentielle. Donc, en fait, elle n'est pas traitée comme une justiciable comme les autres. Si elle était traitée comme les autres, la Cour de cassation ne dirait pas on va tout faire pour aller très vite. Rimietz, le procureur de la Cour de cassation, a pris la parole. C'est quand même assez rare.
On fera tout
pour. Moi, je trouve ça bizarre comme intervention.
Il était là sur France Inter ce matin, alors, il fallait le
Peut-être que j'y vois malice, mais peut-être simplement il dit au moins comme ça on aura évacué cette affaire, que la présidentielle pourra se dérouler. Mais enfin bon, en avril, on sera à quelques jours du premier tour. Sera au cœur de la campagne.
C'est que si la Cour de cassation ne s'est pas positionnée avant le premier tour et le deuxième tour, eh bien après, si elle est élue, elle bénéficierait de l'immunité.
On peut remettre en cause l'immunité présidentielle, mais il ne faut pas la remettre que pour Marine Le Pen. Il faut la remettre en cause pour tout le monde. Je rappelle que Jacques Chirac en a profité,
mais c'était aussi bas, justement.
Son procès a eu lieu après.
Et bien, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui,
Marine Le Pen, elle revient à une tactique qui est un peu la tactique char d'assaut, c'est-à-dire une tactique à la Donald Trump. C'est-à-dire RAF, rien n'affiche. Si tu veux, voilà, la justice me tombe dessus. Oui, c'est parce que
il avait combien de procédures, 70, je crois.
C'est parce que de toute façon, je suis celle qui gêne. Elle n'arrête pas de dire d'ailleurs comme Donald Trump, je n'ai rien à me reprocher, je suis innocente, j'y vais, vaille que vaille, coûte que coûte. D'ailleurs, c'était intéressant de voir même dans le rassemblement hier. La réunion électorale, déplacement à la flèche, c'est comme Bardella était à la traîne derrière. Alors il prenait des photos, il prenait des selfies, mais c'était elle qui était de nouveau la star, elle que le public voulait voir, elle qui était prise en photo, et c'est elle la candidate. Et rappelons que le Premier ministre, ça n'est ni plus ni moins qu'un
collaborateur.
Exactement.
Donc hier, on voyait le collaborateur derrière la patronne. Et donc, ce que son public, son électorat voulait, c'était de nouveau une Marine Le Pen combative et qui se trompe.
Et c'est une femme.
Et c'est exactement l'image qu'elle a donnée, d'où peut-être le fait qu'elle remonte.
Voilà, mais raison aussi pour laquelle elle remonte, c'est que dans ce contexte de contestation du pouvoir judiciaire, Ce braver le pouvoir judiciaire lui acquiert aussi la faveur du peuple français, hein, dans ce contexte-là aussi.
D'une partie
précisément,
seulement,
mais
pas du de
coup,
tout le peuple.
Elle se dresse aussi face à cela et elle ne leur laisse pas le dernier mot.
Du coup, ça va obliger les adversaires de nouveau à durcir leur jeu.
Oui, mais moi, je pense que les arguments sur ces ennuis judiciaires qui vont être utilisés par ses adversaires, et c'est normal,
ne vont pas prendre.
Les Français ne se font guère d'illusions sur la justice, mais aussi sur la classe politique. Les Français, ils sont plutôt du genre à dire, coupable. Non, mais elle est présumée innocente.
Oui, d'accord, mais il y a quand même une deuxième juridiction qui l'a reconnue. Donc on peut pas dire que la justice est laxiste. Je veux dire, ils auraient pu très bien ne pas la retenir.
Tu sais pas ce que je veux dire, donc laisse-moi terminer. Je dis que les Français, ils pensent que de toute manière, tous les hommes politiques sont pourris. En gros, hein, c'est
voilà,
ça.
Bah oui,
et que finalement, elle est un peu comme les autres. Donc malheureusement, c'est terrible, mais ça n'a plus tellement de prise, cela. Parce que c'est vrai quand même qu'à chaque présidentielle, on a un scandale judiciaire. À chaque présidentielle, on a un candidat qui est mis en examen ou qui est poursuivi pour telle ou telle affaire.
Non, avec Macron,
je rappellerai que Édouard Philippe a une information judiciaire. Je rappellerai que François Fillon a été mis en examen. Je rappellerai que ensuite on a encore des scandales de financement de Vie Politique Française, Nicolas Sarkozy, etc. Donc, je pense que les gens se disent bon ben finalement,
on s'est habitué, fini par l'accepter.
Voilà.
Tu prenais le cas de Claude Guéant et Brice Hortefeux. Allez discuter. Potentiellement, parce que, allez, présomption d'innocence avant que tu me le ressortes, avec quelqu'un qui a du sang français sur les mains, qui a balancé un missile sur un avion, qui a tué des Français, allez discuter avec.
Mais tu dans une de l'émissaire
autre...
libyen.
Exact, mais dans une autre époque, on aurait parlé de haute trahison à la nation. Aujourd'hui, ça passe tranquillement. On parle juste de maladresse. Mais il faut se rendre compte à quel point le peuple français a baissé dans ses standards en termes d'exigence.
Non, mais dans le cas du changement.
On va au 32-16. Écoutez, David. Bonjour, David. David qui est dans Lyon, je crois. Bonjour, David.
C'est ça. Bonjour, les GG.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette dynamique en faveur de Marine Le Pen? Est-ce que cette quatrième candidature peut être la bonne, alors?
Mais moi, peu importe ce que dit Abel ou peu importe ce que disent les gens, mon vote ne va pas changer. Hein. C'est clair et net. Moi, ça sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella, si c'était lui. Mais moi, les affaires de justice, en fait, j'ai tellement pas du tout confiance. J'ai tellement aucun respect envers les magistrats et la justice avec le mur des cons. Quand ils appellent à faire barrage et à faire tout ce qui est en leur pouvoir quand elle était au deuxième tour aux dernières élections. Moi, je suis désolé, moi, je raccorde à eux aucun crédit. Aucun. Donc, j'en ai rien à faire. Moi, je voterai Marine Le Pen et en toute conscience, et pour moi, ça ne changera rien. On veut quoi, en fait? Se retaper Attal, se retaper Édouard Philippe, on les a eus pendant 10 ans. Vous voyez dans quel état il est le pays? Et après, eux, ils viennent donner des leçons. Mais non, mais il n'y a aucune leçon à donner. Mais restez où vous êtes. En fait.
Donc ça ne vous dérangerait pas, vous, quand même, qui est en fonction de la décision de la Cour de cassation? Parce que rappelons que la Cour de cassation, et je parle sous le contrôle de Sandrine Pégan, elle s'exprime en droit. Mmh. Elle ne s'exprime pas sur le fond de l'affaire, la Cour de cassation.
Donc
ça ne vous embête pas, à ce moment-là, d'avoir une candidate ou éventuellement élue en ayant été condamnée, vous, David?
Tout
va bien.
Et condamnée, pas pour 2 mois.
Allez-y, oui.
Permettez-moi de vous dire une autre chose. Après, ok. Franchement, ce qui s'est passé avec les députés,
détournement de fonds publics,
4,5 millions. Hein.
Alors, c'est pas bien pour le coup. Ok. Mais par contre,
merci de le reconnaître.
Les problèmes de financement du RN, on peut en parler, ça, parce que le pognon des Français qui ont sauvé les banques en 2008. J'en étais content de trouver, mais mon pognon, moi qui vote RN, et par contre, pour financer le RN, pour financer les campagnes et tout ça, on leur refuse tout. Et après, on vient de plaindre qu'ils sont obligés de... comme je vous le dis, je cautionne pas, mais ils sont obligés de tricher avec ce genre de magouille au niveau du Parlement européen.
David, si vous me permettez.
Ostracisés, on leur refuse des crédits, c'est honteux.
Pardon, mais voilà. Marine Le Pen, elle a hérité d'un système qui était déjà mis en place par son père au préalable. Donc voilà, après que vous votiez pour le Rassemblement National, c'est votre choix, c'est votre droit et personne n'a à vous juger pour ça. Mais juste ce que l'on peut pointer du doigt, c'est le fait qu'elle-même, elle a prôné l'inéligibilité à vie pour les politiques qui étaient pris dans le pot de confiture et qu'elle ne se l'applique pas et que là elle a joué avec le pourvoi en cassation.
Pour des tournements de fond,
exactement. Et elle-même qui disait qu'elle était blanche comme la neige, qu'il n'avait rien à se reprocher, et même dans les éléments du dossier, il y avait eu un mail qui disait attention, on risque de tomber dans un système de détournement de fonds. C'est un élément qui fait
alors,
partie
de charge. On va écouter Quentin qui est avec nous aussi au 32-16, qui est conseiller de vente du côté de la Haute-Vienne. Bonjour Quentin.
Oui, bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, Quentin ? Est-ce que sa quatrième campagne peut être la bonne ou pas ?
Ben, j'espère, en tout cas, parce que moi, je vais vous exposer trois points. Premier point, je ne comprends pas. Moi, les Français, ils se plaignent du gouvernement Macron, etc. Il y en a marre, vivement qu'il dégage. Sauf qu'en 2022, on a encore préféré mettre Macron plutôt que d'essayer le RN. Et les Français qui critiquent le RN sans l'avoir essayé, moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, il faut essayer avant de critiquer. Donc, tout le monde dit, ouais, mais le RN fera pas mieux. Peut-être, mais quand on voit ce qu'il y a en face, moi, deux ex-macronistes qui se disent, ça y est, c'est bon, on va faire des miracles, on va sauver la France, alors que quand ils étaient en poste, ils n'ont rien fait, et quand vous avez Jean-Luc Mélenchon en face, bah, désolé, mais moi, mon choix est vite fait, hein.
Attendez, Quentin, parce que il y a pas. Alors, vous faites sans doute allusion à Édouard Philippe, à Gabriel Attal, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a d'autres candidats. Oui. Il y a Bruno Retailleau, par exemple.
Oui, mais c'est, on parle les plus gros, en fait, ceux qui sont vraiment. Oui. Il y a en plus de chances d'être en campagne.
Il y a des candidats à gauche qui sont pas encore vraiment déclarés, qui vont l'être. Alors c'est vrai qu'ils mettent du temps. J'entendais Olivier Faure.
Mais Grégoire a raison. Non, Quentin. C'est Quentin. Hein,
oui, c'est Quentin. Oui.
C'est Quentin. Vous avez tout à fait raison. C'est que ils incarnent des modèles qu'on a mais 100 fois, 1000 fois essayé. Donc que ce soit de toute façon.
Ça c'est une des forces de Marine Le Pen.
Oui, on n'a jamais essayé.
Je n'ai pas dit jamais essayer.
C'est qu'ils incarnent une véritable proposition distincte de celle de tous les autres candidats. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi je n'aime pas que l'on dise il faut surtout éviter les extrêmes. Mais non, moi je crois que la confrontation LFI RN est la plus intéressante parce que pour le coup,
deux choix de société.
On a véritables philosophies de deux ententes et deux significations de la façon dont on comprend la continuité historique de la France. Et donc là, on est sur des projets qui sont absolument antagonistes, mais qui au moins ont de véritables enjeux. Tous les autres incarnent ce que l'on connaît par cœur. Donc, évidemment que je soutiens parfaitement la position de...
Là, peut-être que le RN incarne une nouvelle proposition et que jusqu'à présent, ça n'a pas été fait, on n'a pas testé le RN. Mais ils sont quand même entachés d'une certaine crédibilité. Je veux dire, si là, à partir du moment où la décision elle est devenue définitive et qu'ils seraient condamnés en janvier ou en avril prochain pour un détournement de fonds de 4,5 millions, ce qui veut dire qu'elle fera quoi quand elle sera présidente?
Mais non, ne confondons pas les ordres.
Elle avait la possibilité de ne pas poursuivre quand elle a récupéré le système de son père. Et elle l'a fait en toute connaissance de cause. Et on va donner à cette femme les clés pour accéder à la plus haute fonction de l'État. Et donc peut-être éventuellement faire la même chose.
Il y a un autre argument à faire valoir. On ne peut absolument pas autoriser ce qui se passe au niveau européen à interférer dans la campagne présidentielle de la France. Donc de toute façon,
en Europe,
la façon
on peut voler de l'argent et tant qu'on le fait pas en France, tout va bien.
Non, elle n'a pas volé de l'argent.
Elle a détourné.
Il y a un usage.
Il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est aller pour l'enrichissement du parti. Donc c'est facile de jouer.
Elle va faire quoi quand elle sera présidente? Elle risque de faire la même chose.
Mais non, elle ne fera pas la même chose.
Quentin, là, on voit bien que ce débat va continuer d'émailler la campagne électorale parce que les adversaires. Alors, est-ce que les arguments feront mouche ou pas? On aura la décision de la Cour de cassation aussi. Mais lors de son déplacement hier, Marine Le Pen, il y a des sons de casserole aussi pour dire condamné.
Ça rappelle les déplacements de François Fillon.
On a posé la question, quatrième campagne de Marine Le Pen, est-ce que, à votre avis, cette fois-ci, ça peut être la bonne, oui ou non? On va voir ce que vous en pensez. C'est un oui à 65%.
étonnant, ça.
Sur le réseau social Twitter. Attention, ça n'a pas valeur de sondage. Ouais. Pour les plus motivés qui vont voter dans ces cas-là. Dans
ça, confirme, avoir, hein,
ça, confirme, Twitter, ça confirme quand même les sondages.
Cocktail au ministère. Au ministère des Relations avec le Parlement pour saluer l'adoption de la loi sur la fin de vie. Gênant, malaisant, honteux. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules et 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Gigi, les grandes gueules sur RMC, RMC Story aujourd'hui avec Maître Sandrine Pégan, avec Abel Boyer, éducateur, avec Bérénice Levé, philosophe et conférencière. La loi sur la fin de vie est passée. Visiblement, on s'apprêtait à célébrer ça avec un petit cocktail au ministère des Relations avec le Parlement.
Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. Grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête.
En fait, c'est le Conseil économique et social qui convie à une... Alors, comment on va dire ça ? À un apéro, à une célébration, à un cocktail dans un ministère après l'adoption de la loi, définitive sur l'aide à mourir. Du coup, dans les rangs de la droite conservatrice, on dit, ah non, mais attendez, c'est pas possible, c'est pas normal, c'est choquant.
Oui, alors c'est Bruno Retailleau, mais aussi Philippe Juvin, des personnalités qui effectivement sont montées au créneau pour dénoncer ce cocktail de célébration pour la loi sur l'aide à mourir. Alors c'est un cocktail, une réception accueillie au ministère des Relations avec le Parlement. Si je vous demande le nom du ministre chargé des Relations avec le Parlement.
Alors, Charles Pico, bien en pleine.
Toi, tu sais, Alain, c'est normal.
Mais et encore.
Pif Gadget.
Non, c'est monsieur Laurent Panifou.
Voilà.
On dit Ous. Ah, c'est pas l'ES. Laurent Panifou. Donc, qui organisait cela, en fait, avec le CESE, le Conseil économique
ça
et social, puisqu'en fait, il s'agissait d'inviter notamment tous ceux qui avaient participé à la convention citoyenne sur la fin de vie. Donc, transport et hébergement payés par le CESE et cocktail au ministère. On ne célèbre pas un texte qui touche à la mort, la gravité du sujet et l'inquiétude qu'il soulève. Exige de la retenue, le respect de l'argent public aussi. Alors, monsieur Panifous, il est bien embêté, donc il tente de désamorcer cette polémique. Il dit ce n'est pas un cocktail, mais un temps de parole. Mmh. Ouais. Une rencontre.
En fait,
avec des canapés.
Il y a un peu de ça, effectivement, dans le mail d'invitation ou le carton d'invitation, il est écrit apparemment cocktail de célébration. Voilà. Tu es outré, Bérénice?
Alors, attends, c'est simplement, je dis que l'événement a été reporté. Hein.
Oui, d'accord. Coup,
priori, alors, je suis outré.
Il n'est pas annulé, reporté, ça.
Mais je rappellerai une chose. Apparemment, ils sont quand même spécialistes des festivités dès lors qu'il s'agit de célébrer la mort. Souvenez-vous, au moment de la constitutionnalisation de l'IVG, on a fait une grande cérémonie où était invitée l'ex-chanteuse d'Erita Mitsuko. Et donc, pareillement, là, à chaque fois que on entérine un phénomène de mort, et là, en l'occurrence, cette loi qui entraîne quand même une véritable mutation anthropologique.
Une distinction entre IVG et euthanasie.
Ah oui, voilà, oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, on a quand même le phénomène de la mort qui, manifestement, les enthousiasme aussi. Beaucoup. Ouais. Là, en effet, c'est infiniment plus grave dans la mesure où, avec cette adoption de la loi, et j'ai signé une tribune contre dans le Figaro, effectivement, on assiste à une véritable mutation anthropologique. Le « tu ne tueras point » cesse d'être un interdit. On a levé ce tabou. C'est un interdit qui était fondateur de nos civilisations. Donc, non, mais... c'est absolument mais scandaleux et effectivement...
Il leur demande non pas de reporter, mais d'annuler purement et simplement.
Ah oui, s'il y a une chose que l'on ne célèbre pas et que l'on ne commémore pas, c'est bien
ça. Parce que tu es contre cette loi. Mais si on est pour cette loi, on peut la célébrer.
Non, vu ce qu'elle signifie, non.
Moi, par exemple, je suis pour cette loi, mais je trouve qu'il y a quand même des symboles qui comptent. et que donc là, organiser un cocktail pour célébrer une loi qui touche à la mort, c'est un manque de retenue. Et je déteste cette mise en scène.
C'est déplacé.
C'est déplacé. Et pourtant, je suis pour cette loi. Ouais. Et mais j'estime qu'à un moment donné, tu dois avoir un peu de décence. Et à partir du moment où c'est une loi qui a été votée, et on voit les difficultés, hein,
En plus, si on peut faire des économies, ça serait pas mal.
Bah oui. Oui, bah, tu vois, pour l'instant, visiblement, ils ont pas la même opinion que toi, puisque c'est pas annulé, mais c'est reporté. Donc, on peut se réjouir qu'un texte ait été adopté sans le sentiment de faire la fête. Voilà, moi, c'est
tout. Abel.
Moi, je suis plutôt contre ce texte, mais je trouve qu'on en fait une fausse polémique. C'est-à-dire, on voit que c'est la droite qui se lève.
Ceux qui sont contre.
Voilà, exactement. Si c'était pour une cause à laquelle ils adhéraient, ils n'auraient pas ouvert la bouche. La problématique, c'est plutôt le trop de cocktails et de petits fours dans les ministères.
Vous imaginez que certains rétablissaient la peine de mort, je suis sûr qu'ils feraient, pour certains, la fête.
Voilà, exactement.
Je suis sûr.
C'est-à-dire qu'on est dans l'hypocrisie. La question, c'est y a-t-il trop de cocktails et d'argent mal dépensé dans les ministères? C'est surtout ça. Mais de faire de ça une sorte de scandale d'État, bon ben voilà, c'est la réalité de la vie politique et on va pas s'offusquer pour ça.
Les petits canapés, ils sont pas achetés chez Picard.
Mais en même temps, là,
c'est
une loi qui nous explique qu'il s'agit de mourir dans la dignité. Mm-hmm. Ben, là, ça manque un peu de dignité, de sortir les petits fours et le champagne. Alors, M. Panifou, ce matin, il est bien endébédé, donc il essaie de nous faire croire que ce cocktail n'en était pas un. Enfin bon, faut pas prendre non plus les gens pour des imbéciles. Oui, donc, soit il assume.
Mais il aurait dû assumer.
Soit l'annuler. Ah, oui. Mais de faire croire que c'était un temps de parole, etc. Mmh. Ouais, là, c'est pire, en fait, parce un ministre peut pas prendre les Français pour des imbéciles.
Tiens. Alors, je vais te dire un truc. Moi, ça me choque pas.
Parce que tous les soignants, sont plutôt contre cette loi.
Parce que,
par exemple,
il faut distinguer la forme du fond. Effectivement, sous loi sur l'euthanasie, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est un combat politique. Quand tu as mené un combat politique de longue haleine, fort, qui a créé beaucoup de tensions, et qui est issu en plus d'une convention citoyenne, donc avec des Français qui ont réfléchi, moi je trouve qu'à ce moment-là, se dire, on se retrouve, on se rassemble, on peut se voir après un enterrement, tu te retrouves parfois en famille, tu lèves un verre, tu racontes des anecdotes, il peut même y avoir des rires, il peut même y avoir des moments où tu te lâches, effectivement, tu peux avoir des fêtes. Alors, dans certaines cultures, ça se fait, ça peut choquer dans d'autres, on préfère le recueillement, l'affliction, les pleurs. Moi, je dis que quand tu as gagné un combat politique qui a été mené de longue date, de longue haleine, que tu te retrouves et même autour d'un canapé, avec une coupe de champagne en disant, écoutez, on a gagné,
avec les personnes
qui ont participé, moi ça me choque pas, Bérénice.
Je trouve qu'autour de la mort, il y a quelque chose quand même de l'ordre du tragique et de vouloir effacer ce tragique. De toute façon, que ce soit aux enterrements, où il faut absolument être dans le festif.
Il y a
quelque chose.
Non, mais ils ne sont pas allés pour fêter la mort. Moi, je suis contre cette loi. Ils ne sont pas allés pour fêter la mort. Et pour eux, c'est une avancée.
En plus,
elle n'est pas encore votée d'ailleurs.
Bah oui.
Ce
qui est encore plus choquant, c'est que c'est pas terminé puisque Gérard Larcher veut saisir le Conseil constitutionnel. Il y a un combat mené au Sénat. Donc en plus, il met un peu le charrue avant le bœuf.
Non, mais la fin de vie n'est pas une victoire politique comme une autre. Tu vois,
ça en reste une quand même.
C'est parce que c'est la loi qui porte. Dignité.
Je vois pas où est l'indécence et où est l'indignité de rassembler.
Surtout que pour eux, c'est une avancée
en
fait.
En disant c'est une avancée.
Pour eux, c'est une avancée de soulager quelqu'un.
Après, c'est critiquable. Hein, ouais, c'est effectivement, tu es contre. Mais de dire le combat politique, les amis, on l'a gagné.
Moi aussi.
Bravo, félicitations. Ça a été argument contre argument. Ça a été à l'Assemblée. On a pris du temps. Mylène, bonjour.
Oui, bonjour.
Mylène du Tarn-et-Garonne, et vous, qu'est-ce que vous en dites, Mylène? Parce que vous êtes aide-soignante en plus.
Voilà, alors je suis aide-soignante en cardiologie. Et je trouve effectivement le cocktail pour fêter la fin de vie. Je trouve que c'est déplacé parce que c'est too much, on va dire. Par contre, pour ce qui est de la fin de vie, moi je suis sur le terrain. En plus, j'ai perdu mes deux parents du Covid. Donc en 15 jours, je les ai perdus. Et en fait, mon papa, on l'a fait amener au SMIT, service de maladies infectieuses et tropicales. Comme il souffrait beaucoup trop, on l'a ce qu'on appelle dans le métier, on l'a engagé. C'est-à-dire on a avancé sa mort. Et
entre médecins, avec votre accord, quoi, en fait.
Oui,
c'est ça.
Avec mon accord. Et en fait, j'ai tenu la main de mon papa. Je dis, écoute, papa, tu vas partir, tu souffriras plus. Je suis avec toi, t'inquiète pas. Et lui, il est parti. Voilà. Et ma mère est décédée la nuit où mon père, on l'a engagé. Ma mère partait en réanimation du même hôpital. Et en réanimation, elle est décédée peut-être 10 jours après. Du Covid aussi. Donc, je suis
cette sédation ou cette aide à mourir, il faut pas non plus être hypocrite.
Moi,
elle existe déjà, Mylène.
Hein,
voilà. Il y a déjà des. Voilà.
Non, je vous en prie, allez-y, Mylène. Allez-y.
Il y a déjà, si vous voulez, des lois qui sont prévues pour ça. Mais souvent, les médecins n'osent pas parce qu'ils ont toujours peur d'engager ce qu'on appelle. Parce que, il y a un rapport à la mort qui est compliqué dans nos pays. C'est sûr qu'on n'est pas en Amérique latine ou dans les pays latins où on voit les choses autrement sur la mort. Mais moi, je pense que quand même, c'est bien quand même qu'on ait avancé sur le terrain parce que je peux vous dire que j'ai travaillé aussi à domicile. Et des fois, c'est terrible, terrible. La personne, elle met des fois une semaine avant de mourir, quoi. Et là, c'est plus possible. La famille souffre parce que la personne met du temps à partir. Donc maintenant, après, je voudrais faire une petite aparté, si je puis me permettre, monsieur. C'est que je suis en cardiologie, je suis dans un service où il n'y a pas... Alors, excusez-moi, parce qu'ils font un cocktail, donc ils vont dépenser de l'argent, on est d'accord. Mais je suis dans un service où il n'y a pas de climatisation. On est avec des ventilateurs. On ferme les volets tôt le matin pour pas que les patients souffrent trop de la chaleur. Nous-mêmes, les soignants, donc je travaille en 12 heures. Je peux vous dire que c'est très difficile. L'autre fois, j'ai un collègue qui a fait une syncope parce qu'il avait trop chaud. Et à côté de ça, on nous enlève, parce que nous, on est sur des soins critiques, puisqu'on est en cardiologie, on nous a enlevé une partie de la prime. On va nous enlever une deuxième partie de la prime.
Pourquoi ?
L'hôpital fait des économies. Et à côté de ça, on fait un cocktail pour fêter la fin de vie. Enfin, à un moment donné, moi, ce que je comprends, j'ai l'impression que l'argent est très mal dépensé.
Oui, c'est le train de vie de l'État, le vrai problème.
C'est toujours les mêmes. Moi, je suis allée voir le directeur de l'hôpital en question pour discuter avec lui. Mais bon, c'est des demandes de l'État, en fait. Donc, l'État veut faire des économies sur les soignants, alors qu'à côté de ça, nous n'avons rien. Il nous manque du matériel. Il nous manque des bonnes conditions pour travailler. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, en fait. Donc, je me permets d'être sur RMC, les grandes gueules, j'en suis une aussi, quelque part. Mais moi, je suis choquée.
Mais écoutez, Mylène, j'espère que votre message est passé. Est-ce que vous voulez préciser dans quel hôpital vous travaillez ou pas ?
Alors, moi, je travaille sur l'hôpital Rangel, pour être clair.
D'accord.
Voilà. Mais ce que
où il manque la climatisation, où il manque des moyens et où on vous enlève la prime. Je pense que le message peut être passé en haut lieu et je vous remercie.
Moins de cocktails et plus de climat à l'hôpital.
Et Mylène, je vous remercie.
Bon slogan.
Et surtout un petit peu plus d'humilité. Voilà.
Merci d'avoir été dans les GG. Le gueule est passé et on va le mettre sur les réseaux sociaux.
Après, il n'aille pas donner de leçons à Marine Le Pen. Hein.
Un cocktail pour fêter.
C'est pas la même chose.
La loi de fin de vie.
Elle est Marine Le Pen, en fait.
Est-ce que ce cocktail peut être celui de. Est-ce que c'est selon vous le cocktail de la honte ? On a posé la question. On va voir comment vous avez réagi sur les réseaux sociaux. Cocktail de la honte, oui ou non ? Vous dites oui.
Bon,
vous êtes comme Mylène, comme Bérénice, à 77%. Dans un instant, périscolaire parisien, un suspect relaxé au bénéfice du doute. Vous venez en parler avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story dans les GG. Aujourd'hui, Bérénice Levé, Sandrine Pégan, Abel Boyer, un éducateur, une avocate, une philosophe. On va regarder ce qui s'est passé du côté du périscolaire parisien, notamment avec une deuxième relaxe. Et c'est cette affaire qui continue de provoquer beaucoup de réactions, en particulier dans les familles qui sont touchées, et même si ne pas touchées, parce que c'est la confiance qui est altérée aujourd'hui, la confiance dans celles et ceux qui mettent leur enfant dans les institutions, qui ensuite s'occupent d'eux. Et donc là, on a du coup une deuxième relaxe dans le périscolaire parisien, deuxième relaxe d'un éducateur au bénéfice du doute.
Oui, c'est étonnant parce que c'est la deuxième fois qu'un animateur qui était accusé d'agression sexuelle sur des enfants dans le périscolaire parisien est relaxé. Alors la justice est passée. Les parents d'élèves se sont beaucoup plaints parce qu'ils ont eu l'impression que le procès se retournait contre eux. Ils étaient, c'est leur impression, hein, ils avaient l'impression d'être accusés d'avoir influencé leurs enfants et poussé leurs enfants à accuser cet animateur. Notamment, j'entendais une mère de famille qui témoignait ainsi, donc elle était particulièrement choquée et elle disait bon bah très bien, mais ma fille elle m'a raconté quand même qu'il s'était passé des choses. Qu'est-ce que je lui dis maintenant puisque l'animateur en question est libre et que l'affaire est terminée. Alors Abel Boyi, toi qui es éducateur, ça pose la question de une fois plus de la prise de parole de l'enfant, du bénéfice du doute, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve en fait, c'est parole contre parole, même si on peut faire des constats sur les enfants ou de traumatisme, etc. Est-ce que c'est quand même une mauvaise nouvelle?
C'est une très mauvaise nouvelle, d'autant plus que cet animateur, il est libre concernant les enfants, mais il est condamné à 8 mois avec sursis pour harcèlement sexuel sur deux collègues. Donc en ce qui concerne les enfants, ça va pas, mais l'adulte, ça va. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'un petit enfant peut inventer d'avoir été pénétré avec une cuillère? Voilà. Est-ce que c'est normal qu'un parent... lis bien chaque cas. La cuillère, c'était un des enfants. Là, ils étaient 9 enfants. Ensuite, est-ce que un parent peut inventer de déposer son enfant en pleine santé et l'enfant rentre le soir avec des rougeurs sur les parties génitales? Un enfant qui a peur que ses parents lui prennent le bain, un enfant qui commence à faire des cauchemars. Au bout d'un moment, je veux bien. Et c'est quelle est l'image qui est donnée? Donc, un, la parole de l'enfant, et deux, maintenant, c'est les parents qui vont gérer ce traumatisme quand l'enfant fait des cauchemars. Est-ce qu'un enfant peut avoir un langage hypersexualisé? Déjà, il y a quelques semaines, il y avait eu un premier acquittement où pourtant la justice avait reconnu des attouchements, avait reconnu que cet animateur montrait des images et des dessins d'adultes nus avec des parties génitales nues pour éveiller la sexualité des enfants, mais l'intention sexuelle n'était pas prouvée. Donc, en tant qu'adulte, on peut montrer des images d'autres adultes nus à des enfants pour les éveiller sexuellement. On peut leur faire des attouchements sur la poitrine, les cuisses et les parties intimes sans qu'il y ait d'intention sexuelle. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, vous savez, on a entendu beaucoup de parents qui se disent que si ça continue, ils vont se faire justice eux-mêmes. Mais là, qu'est-ce qu'on va dire encore? Parce que qui a fait ces rougeurs? Si c'est pas l'animateur, c'est qui? Ce sont les parents qui sont incestueux alors. Ou alors l'enfant, il s'est gratté, c'est ça? Donc au bout d'un moment, faut arrêter.
Qu'est-ce que ça veut dire être relaxé au bénéfice du doute précisément? Là, je m'adresse à l'avocate Sandrine Pégan.
Déjà, que ça vous choque ou non, et je sais que c'est forcément insupportable d'entendre ça, surtout quand il s'agit d'enfants, mais lorsqu'il y a une relaxe au bénéfice du doute, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à asseoir la culpabilité de la personne qui a été mise en cause, et donc ici le prévenu, et donc l'animateur. Donc ça veut dire qu'on n'est pas là pour dire il est innocent, on est là pour dire que, malheureusement, on n'a pas réussi à réunir toutes les preuves de sa culpabilité. Et en droit pénal, je suis désolée de vous le dire, mais on ne condamne pas un doute, on condamne une certitude. Donc là, pardon, mais si un jour tu es mis en cause...
Donc pour un cadavre, du sang et du sperme, en fait, c'est ça qu'il faut.
Si tu es mis en cause, et je ne te le souhaite pas, un jour, pour X raisons, s'il n'y a pas assez de preuves et qu'il y a un doute qui doit te bénéficier, eh bien j'espère que...
Ça, c'est la justice.
Et bien voilà,
le doute doit bénéficier
à chaque prévenu, donc à l'accusé.
Donc il faut un cadavre, du sang et du sperme. C'est ça qu'il faut pour l'enfant. Voilà.
Après,
c'est pour ça que la loi intégrale,
fois,
elle est importante.
Je sais que c'est que la frontière, elle est fine, parce que bon, moi, bien évidemment, je suis rompue à ce genre d'exercice. Peut-être que c'était des comportements inappropriés, et sincèrement, je crois que tu exagères, parce que je suis allée justement en face de mon audience, puisque mon audience est en salle 201, et là, la salle, c'était en salle 203. En effet, les parents ont eu une réaction qui était aussi disproportionnée et de victimisation secondaire, parce qu'ils ont estimé que finalement, l'affaire s'était retournée contre eux, parce que ils auraient soi-disant instrumentalisé la parole de leurs enfants, mais pas du tout. C'est juste que là, il y a eu un collège de magistrats, et ils sont trois, c'est pas un juge unique. Ils ont estimé qu'en regardant bien le dossier, il y a eu un délibéré quand même de 3 semaines, 1 mois, ils ont regardé, et malheureusement, il n'y avait pas assez d'éléments matériels et intentionnels pour pouvoir asseoir la culpabilité. Je sais que c'est insupportable à entendre. C'est des comportements inappropriés, mais de là à dire qu'il y a une responsabilité pénale, il y a eu un doute, et ça lui a bénéficié.
Donc l'enfant qui a été pénétré avec une cuillère l'a inventé. C'est un enfant menteur. Voilà. Bah oui, bah c'est ça. C'est ça que la
la justice dit, c'est ça que la justice dit.
Oui, mais alors là, tu recommences avec la sacralisation de la parole de l'enfant.
Oui, bah oui, oui,
je l'assume. Mais on ne peut quand même pas. Non, oui, mais on ne.
Parce que la pédocriminalité, c'est un véritable problème en France.
Oui, mais le problème, c'est que les enfants sont d'une porosité extrême, et vu tous les discours qui se répandent et qu'ils entendent, eh bien, il est quand même extrêmement difficile.
Donc un enfant, pour s'amuser, va inventer d'avoir été pénétré.
Mais bien sûr, un enfant, c'est pas pour s'amuser.
Mais en revanche,
dans le contexte de victimisation complète, eh bien, nous pouvons assister à de tels phénomènes. Par conséquent, la justice en effet.
Quel type de phénomène? Quel type de phénomène? Un enfant qui invente.
Ces enfants qui arrivent. Qui tiennent des. Mais oui.
Mais c'est déjà arrivé. Loïc Séché, il a été condamné à 14 ans pour un viol sur une fille de 11 ans.
Mais il y a eu des
trucs. Attends, je vais la laisser finir. Je vais reprendre après. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Vas-y.
Non, mais moi, je ne me permettrai pas, effectivement, de contester cette question de bénéfice du doute et d'avoir besoin quand même de preuves tangibles et donc
et c'est quoi une preuve tangible sur un enfant qui
mais un
est
enfant,
agressé
je ne veux
sexuellement
pas
dans un temps
je
de périscope
je ne peux pas sacraliser
non, je te
sa
pose une
parole
question, c'est quoi une preuve tangible? Faut du sperme, du sang ou un cadavre?
Mais non, il faut renforcer
l'encadrement.
Vous voyez, vous pouvez pas
exactement
répondre à la question. C'est quoi
non, mais
une preuve tangible?
Je ne suis pas.
Ah, raison, il y avait des certificats médicaux.
Ben oui,
est-ce qu'un certificat
avait
médical, c'est pas
alors,
une preuve?
Là, vous parlez comme si on était dans un dossier.
Non,
et comme si on
ne connaît
rien au dossier. Alors moi, exactement ce qu'il en a été. Voilà, faut être prudent. Là, quand tu me parles de la cuillère et tout, moi, j'ai une amie qui est une consoeur qui représente la voix de l'enfant et elle m'a pas du tout parlé de ça dans ce dossier-là. J'ai pas
entendu parler
de cuillère. Elle m'a simplement parlé de, c'était un animateur qui prenait les enfants sur ses genoux, bon voilà, il faisait un petit bisou dans le cou.
Alors il y a des rougeurs non, sur les parties génitales. T'as pas lu l'article? Bah si, c'était écrit dans les articles.
Il y a aussi
une psychose qui s'est installée dans le périscolaire parisien. Donc effectivement, il peut y avoir aussi parfois du côté de certains parents une surinterprétation de choses. Donc c'est vrai que il faut être très prudent dans un côté ou dans un autre. Pendant très longtemps, il y a eu une espèce d'impunité, ça c'est clair. Mais il faut pas basculer non plus dans l'excès inverse.
J'ai pas dit ça, mais un enfant ne peut pas avoir un langage hyper sexualisé. Il peut pas l'inventer.
Alors,
je
attends,
suis désolé.
Alors attends, ça peut être aussi du fait des parents. Parce que pardon, là, moi, je suis dans un dossier où justement le gamin, il a à peine 8 ans. Et non, c'est une petite fille. Elle a 8 ans. Et pardonnez-moi, je vais être un peu crue. On est le matin. Mais elle se masturbe 3 à 4 fois par jour sous la table parce qu'elle ne fait que voir ses parents en train de faire l'amour. Donc tu vois, l'hypersexualisation, elle ne devient pas
c'est
forcément de l'animateur.
C'est l'affaire d'Outreau, souviens-toi. Outreau, les enfants qui accusent à tort des adultes étaient eux-mêmes victimes de violences sexuelles de leurs propres parents.
Oui, mais c'est
et donc
toujours...
ils baignaient effectivement dans cette ambiance sordide et ils en étaient arrivés.
Mais c'est toujours le dossier que l'on sort comme
ce qui est curieux, c'est que je pense que tu ne contesteras pas, en revanche, cet enseignement hypersexualisé au travers des programmes Evrard. Donc, sincèrement...
Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu m'as posé la question.
Oui, non, effectivement.
Ah bah oui,
et voilà.
Donc voilà. C'est-à-dire
le problème, c'est que
l'hypersexualité. Tu ne sais pas ce que
oui,
je pense.
Oui, mais
tout à l'heure,
tu me prêtais aussi un autre préjugé. Donc,
non, moi, je
ne
fais pas kiné, c'est différent sur
mais il n'empêche que cette question de l'hypersexualisation, vu les discours que l'on entend à longueur d'antenne, et je te dis, les enfants sont d'une porosité extrême. Donc,
moi, ce que je trouve.
Et en tout cas, la ville de Paris a quand même suspendu l'animateur pendant l'enquête. Ça, on peut au moins mettre ça à son crédit.
Oui, mais les
au
enfants
moins,
ont menti,
Paris,
donc les enfants
bien
vont inventer.
Julie, bonjour, Julie.
Par leurs parents, bravo.
Principe de précaution.
Vous êtes choquée, vous êtes médecin urgentiste.
Oui.
Vous êtes maman d'un petit garçon qui a été scolarisé dans le 11e, en contact avec cet animateur relaxé.
Tout à fait, et avec d'autres animateurs relaxés, enfin suspendus, pardon, et non pas encore jugés. Mais donc oui, moi j'interviens parce qu'en fait, je voulais juste témoigner du fait que nous, depuis un an et demi, on vit dans une angoisse permanente. Alors, vous avez parlé de la porosité des enfants. Moi, je suis absolument scandalisée d'entendre des propos comme ça,
c'est
parce
clair.
Que entre nous, notre gamin, il a tenu des propos qui nous ont inquiétés, pour lesquels on a consulté une psychologue via l'association Osez, dont on avait eu des contacts très tardifs. À travers une réunion tenue par la mairie, bon, qui est absolument lamentable. Mais en tout cas, on a eu les contacts. Et je peux vous dire que voilà, nous, on avait été très inquiets. On a vu cette psychologue à 3 reprises avec notre fils et que l'évaluation a été faite et que nous, on a été rassurés pour notre enfant. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui des spécialistes qui sont capables de faire la part des choses quand les parents, effectivement, sont emportés par l'affect et ont l'incapacité de faire la part des choses. Puisque nous, on a été mis dans des situations où on ne savait plus quoi faire. Enfin, au début des affaires, à la suspension, justement, de cet animateur,
on a été complètement lâché, hein. C'est-à-dire qu'on a reçu l'information, déjà c'était Radio Rago au parc, et puis ensuite on a reçu un mail, laconique, nous prévenant de la suspension d'un animateur. C'était la veille des vacances scolaires. Mais, et les enfants,
Julie,
et les parents étaient...
Oui. Julie, je vous propose une chose, c'est de revenir dans quelques instants avec nous pour qu'on complète un peu votre témoignage, parce que c'est dommage de le gâcher à cause du timing. Restez avec nous, on reprend la discussion dans un instant, puisque vous êtes maman d'un enfant, hein, tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.